Bonjour. Oui, alors, les cours, donc. Ah oui, excusez-moi. Les cours. Ah oui, alors, pour le public, le masque reste obligatoire ici. C'est dehors qu'on a le droit de l'enlever. Bon. Les cours, ça va être. Je vais m'arrêter donc après celui-là et reprendre. Mais c'est sur le site hein, du collège. Je reprends le 10 mars, il restera 4 cours. Normalement, j'en donne 13, mais en fait, cette année, j'en donne 4 aux États-Unis, probablement en visioconférence. Bon. 10, 17, 24 et 31 mars. Voilà. Et ensuite, il y aura le séminaire, donc sur un sujet complètement différent, avec suite du séminaire de l'an dernier avec Mme Qin Chaozhong sur les textes chinois sur l'Asie centrale. Et ça commencera le 12 mai. C'est aussi sur la programmation. Hein. Et là, comme ça va être assez serré en mai-juin, on fera en fait 2 séminaires chaque semaine. Un le jeudi matin et un le vendredi matin. Voilà. Alors, je continue donc sur ce plat très riche du point de vue des images, hein, qui donc marque bien la transition avec les débuts de l'influence sassanide et de la domination politique sassanide en Asie centrale, plat donc appelé Kushano-Sassanide, qui est au British Museum. On avait commenté surtout les scènes autour, hein, la scène de banquet, avec certainement le propriétaire ici, qu'on retrouverait là, recevant son anneau d'investiture. Donc, je vais continuer à commenter les 2 scènes du médaillon du milieu, qui donnent évidemment le message politique. Voilà. Ça, c'était la scène du banquet. Oui, c'est ça, la scène du banquet avec les nains, donc on retrouve ici. Donc, pour la date, le fait que ce roi n'est pas un ornement sommital, astral, ou bien une sphère qu'on appelle le Korymbos dans l'art sassanide, n'empêche pas d'y reconnaître un des premiers souverains Kushano-Sassanides, puisque les 2 premiers, sur certaines au moins de leurs monnaies, n'ont pas ces symboles. Et ça pourrait être éventuellement compatible avec celui-là, fin 4e siècle. C'est bien là que je le mettrais, en fait. Voilà. Oui, les flammes qui sortent, les flammes qui sortent du visage et qui n'indiquent pas forcément que c'est un dieu, parce qu'il y a des rois Kushano-Sassanides qui ont des flammes qui leur sortent des épaules. La comparaison avec une œuvre Kushan, la peinture sur coton en collection privée à Bangkok, où le roi Uvishka, semble-t-il, et ça je vais revenir là-dessus, investit son héritier qu'on ne voit plus, mais qui certainement était là, vers lequel il dirige le regard, en tenant là ça va être probablement un carquois et un arc dont on voit la flèche, la corde ici. Ça, c'est un prêtre. Alors, quelques détails sur lesquels il faut s'attarder. Après, on verra l'explication que je propose pour la signification assez complexe hein, de cette double scène d'investiture. En gros, Judith Lerner, dont j'ai signalé l'important article la dernière fois, est d'accord avec moi, mais va moins précisément dans l'interprétation. Voilà. Donc ici, on a, selon moi et selon d'ailleurs Judith Lerner, ce personnage qui, de tous les 4, est le seul qui n'a pas de couronne ni de ruban, et qui n'est donc pas royal, c'est simplement un guerrier, un aristocrate, et c'est très probablement, c'est même certainement, à mon avis, le propriétaire du plat, celui qu'on voit dans la scène de banquet. Qui reçoit du roi un Kushano-Sassanide des débuts, fin 4e siècle, un anneau d'investiture, c'est un anneau qui symbolise la remise d'un pouvoir, d'une autorité, C'est parfois interprété comme un anneau, parfois comme une couronne tressée. C'est pas certain que les artistes aient voulu précisément signifier l'un ou l'autre. À signaler, c'est que cet anneau n'a pas de ruban, contrairement à celui du bas. Ruban veut dire pouvoir royal, parce que le ruban pend d'un serre-tête, d'un ruban autour de la tête, qui est à proprement parler ce qu'on appelait le diadème, comme chez les Grecs. Les éléments de couronne qu'on a en haut, les fantaisies, c'est des adjonctions. Ce qui fait la couronne royale, c'est le ruban et, autour de la tête et avec les bouts qui pendent. D'ailleurs, en Pélévie, dans une inscription connue de plusieurs textes, monté sur le trône se dit Dedembastan, nouer le diadème. Ça veut dire monter sur le trône. Bon. Ce personnage est en train de tendre l'anneau que va attraper peut-être un gouverneur, un administrateur, enfin le propriétaire, mais en même temps, le roi se voit en quelque sorte confirmé dans son pouvoir, dans son autorité, par la remise d'un ruban dénoué. Alors justement, c'est toute cette symbolique autour du ruban noué, ruban dénoué, le ruban dénoué qui signifie le pouvoir qu'on est en train d'acquérir. Et c'est un petit angelot qui le lui remet. Et en fait, cet angelot prend la place de ce qui, dans les représentations grecques, était Nike, la déesse de la victoire. Sauf qu'il est masculinisé. Et c'est normal, parce que... En ce principe d'autorité, de charisme royal, en persan, dans les langues iraniennes, c'est le farn. C'est le farn qui est un mot, et d'ailleurs une divinité, masculine. Voilà, donc on a masculinisé, on a remplacé la déesse de la victoire grecque par un petit personnage masculin. Alors, on retrouve... J'avais pensé un moment que c'était vraiment un trait spécifique à ces régions de l'Est, parce que vous voyez ici Uvishka, le roi couchant Uvishka, un siècle avant, est en train de recevoir exactement le même symbole par ce petit angelot, avec le ruban dénoué. Et là, l'angelot a gardé des ailes que celui-là a perdu. Bien. Mais en fait, ça existe dans l'art sassanide. Voilà. J'ai trouvé ça depuis. C'est l'un des reliefs de victoire de Shapur Ier. Et vous voyez le petit personnage masculin qui tient le ruban dénoué. Le ruban dénoué, ça veut dire « je suis en train de te conférer un pouvoir ». Et là, il a gardé ses ailes. Alors, c'est le célèbre relief, un des reliefs, où Shapur triomphe de trois ennemis, trois empereurs romains en même temps. C'est d'ailleurs le seul, je crois, où on voit les trois en même temps. C'est-à-dire, et ça correspond exactement à ce qui est dit dans ces inscriptions, l'empereur Gordien, le César Gordien, fut tué. Il a été tué au combat ou assassiné par ses propres hommes. Bon, c'est pas clair. Enfin, il est mort. Voilà, c'est lui. Ensuite, Philippe l'Arabe, implora la paix. Ben le voilà, il est là. Et en plus, il est représenté comme sur ses monnaies, c'est le seul des trois qui est barbu. Et je fis prisonnier Valérien. Mais faire prisonnier en Pélévie se dit paddast griftan, attrapé par la main. Et c'est exactement ce qu'on a ici. C'est un art hiéroglyphique. C'est-à-dire que les gestes correspondent à des expressions du langage. Attacher le diadème, implorer la paix et attraper par la main veut dire faire prisonnier. Bien. Donc on voit que cette sorte de confirmation de l'investiture du roi qui normalement est reçue des dieux, cette confirmation par le symbole du Farn existe aussi dans l'art sassanide. En bas, c'est plus compliqué et voilà, on ne s'accorde pas vraiment à... Judith Sterner reste assez prudente sur l'identification des personnages. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne retrouve pas le propriétaire du plat parce qu'ils ont tous des rubans. Donc, ça, il ne peut pas être là. On est avec des gens qui sont des dieux ou des rois. Alors, à mon avis, ici, c'est le roi qu'on a ici. Et là, c'est une divinité qui, lui, l'a investi du pouvoir et d'un pouvoir royal, car de l'anneau pendent des rubans. Divinité sur un trône. Sur les plats romains qui sont les modèles indirects de ce type de plat sassanide, ces plats romains, on les appelle des missoria, c'est-à-dire ce sont les plats qui étaient destinés à des envois, des cadeaux diplomatiques ou des proclamations impériales qu'on envoyait. Assez souvent, on a ce même principe, enfin sur certains d'entre eux, on a ce même principe de composition, c'est-à-dire un médaillon central qui contient évidemment l'essentiel du message, divisé lui-même en deux registres, dont celui du bas est plus petit. Et en fait, c'est celui du bas qui est le plus important. C'est lui qui explique ce qu'on va voir sur celui du haut. Et vous vous rappelez quand le plat des grâces qu'on avait commenté, on a le même principe de composition. Et en bas, on a la scène nuptiale entre la grâce Pacité et le dieu du sommeil Hypnos. Et au-dessus, on avait la préparation, une scène un peu qui vient avant, mais qui est secondaire par rapport à la nuit de noces. C'est la préparation de la nuit de noces, la mariée apprêtée par ses sœurs. Et là, on aurait donc... Ça marcherait, à mon avis, assez bien, parce qu'on aurait là le roi recevant son pouvoir d'une déesse, pouvoir qui explique le fait qu'il peut lui-même le donner en haut. Et ça se situerait donc à l'amont. Bien. Si c'est bien ça, parce qu'il n'y aurait qu'une alternative, c'est une reine. Mais je ne crois pas trop, enfin, je n'ai pas vraiment de parallèle pour l'échange de cet anneau entre une reine et un roi. On a cru qu'il y en avait dans les reliefs sassanides, mais on pense maintenant qu'il s'agit en fait plutôt d'une divinité, de la déesse Anaïta, telle qu'elle est là sur son trône. Je l'identifie personnellement à la déesse Anaïta, mais qui en Asie centrale est plutôt connue sous le nom de Nana. Alors, au départ, ce sont des déesses au départ indépendantes et qui sont restées d'une certaine façon distinctes. Nana, c'est vraiment la grande vieille déesse de Babylone. C'est une des figures d'Ishtar. Anaïta est une divinité proprement iranienne. Alors ici, on a des monnaies de Bactre, monnaies des Kouchano-Sassanides, et justement des premiers, ceux dont j'ai montré la couronne qui ressemblait un peu à ça. Voilà, Ardashir Kouchancha. C'est inscrit en Pélévi. Alors justement, en Pélévi, cette image de déesse est inscrite Anaïta, la dame. Mais en bactrien, langue locale, c'est inscrit la déesse Nana. Donc on voit qu'ici, on jouait sur l'identification. Et vous voyez, elle est sur un trône. Bon, en plus de ça, elle a un dais, on peut dire. Et elle tient, ici, on ne voit pas bien, mais elle tient en général une lance ou une bannière, qu'on verrait ici. Et là, elle tient l'anneau rubané qu'on a là. Donc, à mon avis, c'est ça. Et du coup, Alors, autre objet intéressant, le roi, fraîchement investi du pouvoir, tient un grand arc. Alors, il se trouve que l'arc, c'est aussi un symbole de la réception du pouvoir royal. Alors, je reviens à la peinture de Ouvichka qui très certainement tend ses objets à son fils qui devait agenouiller ici. Et là, vous voyez, il faut être habitué à ce genre d'image pour comprendre ce qu'il y a maintenant sur cette scène très mutilée. Mais enfin, ici, vous avez le chapeau d'un tube, comme les tubes dans lesquels on met des plans, ou des posters. C'est le carquois. Et là, vous avez l'arc. Alors, je vous demande de me croire, parce que cette peinture, moi, je l'ai vue. Elle a été exposée à Paris à un moment dans une galerie. Il y a ici le bois de l'arc et la corde qui pend par là. Donc, si la corde pend à droite, ça veut dire qu'elle est tenue par le personnage de droite. Bien. Et certainement, il remet ça à son fils. Et vous voyez, on a d'autres images du roi recevant l'arc sur des monnaies. Part, ici c'est Artaban II, il est sur son trône. Et il se trouve qu'ici, à l'inverse, le roi est sur son trône et la déesse est debout, mais ce n'est pas une très grande déesse. C'est la Tuquet de Suse. C'est plutôt la divinité protectrice de la ville. Hein. Elle a ici la couronne murale. Elle lui remet un arc qui sort d'un carquois. Il y a le haut de l'arc qu'on voit ici dépasser. Donc, on a bien ce symbolisme. Alors, je suppose que on a ici que la déesse a remis au roi à la fois l'anneau et l'arc. Voilà. Alors, il se trouve que... Donc, il y a une surcharge des symboles. Hein. On en rajoute pour montrer que c'est le roi a vraiment le pouvoir et qu'il est vraiment légitime. Alors, à droite, image intéressante. Malheureusement, je vous la donne telle qu'elle est publiée et telle qu'elle était conservée. C'est au temple de Djartepe, qui se trouve juste à la frontière du Tadjikistan, à mi-distance entre Samarcande et Penjikent, à l'est. C'est une peinture qui était sur le mur de fond de la cella, vraiment la chambre de culte. C'est ce qu'il y a de plus ancien et de plus vénérable, sans doute, dans ce temple. Et on a ici, c'est des relevés qui ont été faits sur une peinture très abîmée, mais enfin, bon, un peu brouillon parce que les archéologues qui ont fait ce dessin ont parfois confondu des traits de préparation du dessin avec les traits finaux. Ça n'a pas été fait très très bien, mais enfin ça suffit pour comprendre l'ensemble. Vous avez en bas une scène de chasse. Et nous retrouvons notre ami, la panthère des neiges, voilà, que nous avions vu sur un plat la semaine dernière. Et il se trouve que j'ai été voir le film hier et que vraiment... ce qu'on avait vu, bon, ici, c'est ils ont fait un gros matou, mais sur la scène qu'on avait vue la semaine dernière, c'est vraiment la panthère des neiges. Bien. Et cette scène se déroule vraisemblablement dans une grande zone de chasse qui se trouvait aux environs de ce temple, de Djartepe. On sait qu'il y a toujours eu là une jungle, et puis le piémont montagneux n'est pas loin. On a des traces d'un mur, d'un rempart d'époque achéménide qui pourrait délimiter ce que les Iraniens appelaient un paradis, c'est-à-dire le mot paradis est d'origine persane. Et au départ, paradis, ça veut dire réserve de chasse. Paradais, les Grecs en ont fait paradaisa, les Grecs en ont fait paradeisos. Et quand il a fallu imaginer notre paradis, Eh bien, on a appris ce qu'il y avait de plus beau, de plus agréable, de plus prestigieux sur Terre, c'est-à-dire la réserve de chasse du grand roi. Bien, où poussent toutes sortes de plantes, où on chasse les bêtes sauvages, etc. Donc, c'est probablement une chasse qui a lieu dans la zone, dans la réserve de chasse voisine du temple de Djartépé. Et alors, pour comme si ça ne suffisait pas, on a encore une confirmation supplémentaire que c'est bien la panthère des neiges, car si vous prenez la carte de répartition actuelle de l'espèce, on est ici, à cet endroit, au point extrême à l'ouest, où cet animal est attesté. C'est dans les montagnes qui bordent des deux côtés la haute vallée du Zerafshan. Alors, en haut, on a une scène cultuelle adressé au statut des dieux divinités qui étaient les titulaires de ce temple. Alors, ces divinités, je vous le concède, il faut les yeux de la foi pour les voir, mais en fait, on comprend. Alors, ici, ce sont des adorants, et en fait, ces divinités, vous voyez, partagent un trône qui repose sur des avant-trains de lion vus de face. Ici, vous voyez, et plus nettement, et ici aussi. En fait, je crois que ceux qui ont fait le relevé n'ont pas compris ce que c'était. Mais c'est évidemment des avant-trains de lion. Le lion est l'animal du trône, quand elle a un trône avec figure d'animal, ce qui n'est pas le cas ici, c'est l'animal du trône de la déesse Nana. Et ici, c'est une femme. Donc, elle a une robe. Donc, c'est certainement, d'ailleurs, je l'ai publié comme tel avec Marchak et avec les deux archéologues, Berdi Mouradov et Sami Bayev, qui avaient fait la fouille, c'est certainement Nana. Et à côté, il y a un dieu masculin avec ses chaussures. Et d'après d'autres images que nous avons, nous pensons que c'est Tishtar, le dieu, un dieu qui préside à la fois à la pluie et à la chasse, et c'est un dieu archer. Alors, le problème, c'est que vous avez ici un carquois, probablement un double carquois, enfin, c'est une combinaison de gorite, de carquois et de gorite, porte-arc. C'est à la fois donc le porte-flèche et le porte-arc. Le problème est qu'on ne sait pas qui le tient. Ça pourrait être Nana, ça pourrait être Tishtar. Mais bon, ça n'a guère d'importance dans le cas qui nous occupe. Ça nous montre qu'il y a, certainement une signification également d'investiture. Ce couple divin confère aux chasseurs, qui sont les aristocrates locaux, la capacité de mener une chasse victorieuse. Et c'est probablement ce qu'on a ici. Alors, pour continuer sur... sur la panthère des neiges, thème décidément inépuisable, et temple de Djartépé, on a dans une chronique médiévale la légende de fondation de la ville de Samarcande. Et que nous dit cette légende? Elle nous dit que un jour, une panthère est sortie de la forêt qui était près de Penjikent. Donc c'est une panthère, c'est celle-là. C'est notre panthère des neiges. Et on l'a suivie. Et elle s'est arrêtée 60 km plus loin à l'ouest, sur un plateau. Et on a donc décidé que c'était un oracle et que c'est là qu'il fallait fonder une ville. Et cette ville sera Samarcande. Alors, on a une double symbolique là-dedans. C'est que Nana, la déesse de ce temple, va toujours être la grande protectrice de Samarcande, jusqu'à l'islam. Et d'autre part, le chemin qu'a parcouru cette panthère, c'est le chemin du grand canal d'irrigation auquel Samarcande doit la vie. Donc là, tout ça est extrêmement cohérent. Donc voilà, ce plat qui a l'air au départ quelque chose d'assez confus, et puis il faut reconnaître que son état de conservation n'est pas très flatteur. En réalité, voilà comment finalement j'interprète la structure de la scène centrale. Anaïta a déjà investi le roi, puisque c'est lui qui tient l'anneau, pas elle, anneau rubané, autorité royale. Le dit roi donc possède l'anneau, mais sans le ruban, il le confère à son vassal, le propriétaire du plat. Et en même temps, il est doublement légitimé. Il a été légitimé par son investiture initiale par la déesse et, d'autre part, par le farn, le principe du charisme, qui lui est conféré sous la forme d'un ruban. Et c'est une composition extrêmement savante qu'on dit... j'emprunte un terme à l'analyse des poésies. On appelle ça un chiasme. Hein. C'est que on inverse la position d'un vers à l'autre, on inverse la position du même mot. Donc ici, on a donc anneau à droite déjà reçu, anneau à gauche en train d'être donné. Voilà. Donc, c'est quand même c'est l'unique exemplaire que nous avons en Asie centrale, en Bactriane, plus tard en Sogdiane. D'une scène royale à scène multiple, même des scènes aussi complexes, on ne les a pas avec les plats sassanides. Et c'est le seul exemple qu'on a. Alors, je vais en venir maintenant à ce qui va être le thème principal de ce cours. Peut-être, ce sera donc probablement même poursuivi l'année prochaine, c'est la grande production originale de l'Asie centrale, disons, bactriane, au sens large, parce que j'ai déjà expliqué, ça peut comprendre le nord-ouest de l'Inde jusqu'au Gandhara, ça peut aussi comprendre la Sogdiane, c'est un espace où pendant cette période, 4e, ici, on a indiqué 4e, 5e siècle, en fait. On sait maintenant que ça se prolonge un peu plus tard. C'est un espace dans lequel règnent les mêmes aristocraties qu'on va dire huniques, H-U-2-N-I-Q-E, sont des Huns, des dynasties successives de Huns, qui ont pris le pouvoir, qui sont arrivés à partir de la fin du 4e siècle. Et certainement, ces gens partageaient les mêmes valeurs, le même style de vie, la même symbolique, d'une certaine façon la même culture, et certainement les mêmes artisans qui devaient être itinérants. La recherche de telle ou telle école locale, régionale, bon, elle est parfois possible, mais elle est généralement inutile. Bien. Alors, on connaît maintenant à peu près, disons, une vingtaine ou un peu moins de ces bols. Le répertoire s'enrichit très vite, puisque en 1941, quand Weizmann a lancé le terme de bol bactrien, il en publiait 3 dans son article. Et en 1986, Marchak en connaissait 10. Maintenant, on est à peu près à 20. Trouver... très exceptionnellement en fouille. En fait, il n'y en a qu'un qui a été trouvé en fouille, c'est celui-là dont je vais parler, près de Samarcande, celui de Chiliek. Les autres, autant que je me souvienne, n'ont pas été trouvés en fouille, ou plutôt, quand ils ont été trouvés dans des contextes archéologiques, c'est des contextes beaucoup plus lointains, des tombes dans l'Oural ou en Sibérie, où ils avaient fini par aboutir comme monnaie d'échange contre de l'ambre, des fourrures ou des esclaves. Bien. Loin, très loin de leur zone de production et d'utilisation première. Alors, vous voyez que ils ont un air de famille. Hein. Ce sont des petits bols. Taille, largeur, 15 à 20 cm, hauteur 5-6, ils ne sont pas profonds. Ils n'ont pas de pieds. C'est-à-dire, ce sont des coupes à boire. C'est-à-dire que ce n'est pas le verre que vous allez poser devant vous. Le convive qui a reçu ça dans la main, parce qu'il faut savoir, au moins en théorie, c'était fait pour boire dedans, puisque c'est décoré à l'extérieur. Le convive qui recevait ça était obligé de vider la coupe ou bien de la passer à son voisin. Voilà. Mais jamais, au grand jamais, enfin bon, il y avait peut-être des pieds séparés pour les poser, etc. Disons au moins symboliquement, c'était destiné, c'était fait pour être bu en société. Personnellement, depuis fort longtemps que je travaille dans les pays ex-soviétiques, je n'ai jamais, jamais vu une bouteille de vodka rebouchée. Du point de vue chronologique, on avait écrit 4e, 5e, c'était une ancienne version en fait, d'un de nos articles. Bon, maintenant, je dirais 5e, 6e, et il y en a deux. Il y en a deux qui sont peut-être plutôt probables, qui seraient plutôt du 7e siècle. Voilà. Ça dure longtemps. Hein, c'est un répertoire stable parce qu'il était très prestigieux. Bien. Ça commence peut-être un peu avant les Huns, en fait, sous les Kouchano-Sassanides, dont je viens de parler. Ça se prolonge après, la dynastie Kidarite, certainement, les Eftalites, et dans deux cas, sans doute, déjà au 7e siècle, des dynasties locales soumises à l'empire des Turcs occidentaux. Il faut savoir qu'en Asie centrale, dans ces siècles, un empire, une dynastie, ça dure un siècle, et souvent moins. Alors, la chronologie, comme on a très peu d'indices archéologiques, la chronologie se fonde sur des indices internes. Hein. Les costumes, quand ils ne sont pas conventionnels, vous allez voir, il y a des costumes qui sont des costumes, je dirais, de théâtre, très tributaires de modèles grecs ou indiens. Mais parfois, il y a des costumes locaux. Alors là, on arrive à les dater par comparaison, notamment avec les peintures. Bon. Le type physique des commanditaires, parfois. Alors, on a aussi des inscriptions. Autant que je me souvienne, ces inscriptions, ou peut-être il y a quelques exceptions, ne sont pas en Pélévi, langue de l'Empire sassanide, elles sont dans les langues locales, l'Asie centrale, bactrien et sogdien, parfois les deux. Évidemment, c'est toujours délicat de savoir, c'est toujours délicat de décider si l'inscription, quand elle nomme le propriétaire, nomme le premier propriétaire ou un propriétaire ultérieur. C'est pas dit. On fait des hypothèses. Parfois, on soupçonne, par exemple, on a une inscription de poids et une inscription de propriétaire, et parfois, on a l'impression qu'elles n'ont pas été faites au même moment. C'est à prendre comme une indication, je dirais, d'ancienneté relative. Ça peut être, en fait, elles peuvent être postérieures à la fabrication de ces objets. Alors, vous voyez tout de suite que c'est un répertoire artistique fondé sur le principe de l'horreur du vide. Ils ont mis des images partout. Bien. Alors, les modèles sont connus. Ça remonte à un type de bol grec en céramique moulée qu'on appelle, alors voilà, ils sont représentés, ouais, ici, plusieurs exemplaires ici, ce qu'on appelle les bols mégariens, parce qu'autrefois on les attribuait à la ville de Mégare en Grèce, hypothèse maintenant abandonnée. Vous voyez, tout de suite, il y a un air de famille évidemment avec ces bols que nous allons discuter. Il y a souvent un motif. Il n'y a pas de pied, un motif qui orne le fond, autour, assez souvent, des scènes mythologiques séparées par des motifs conventionnels végétaux, et puis en haut de la panse, un motif décoratif, des oves, des rinceaux, des guirlandes, etc. Je vous montre celui... Alors celui-là, ça va nous rappeler... Le plat avec la scène du départ de la guerre de Troie qu'on avait vu il y a deux ou trois séances, parce que ça vient du même répertoire, c'est tiré de la tragédie de Ripide, Iphigénie à Aulis. Voilà, c'est Agamemnon ici qui hésite à sacrifier sa fille Iphigénie. On avait vu la scène de sacrifice d'Iphigénie, également partiellement inspirée de cette tragédie de Ripide, sur ce grand plat qui n'est pas un bol, qui était vraiment un grand plat romain. Voilà. Donc ça, c'est les bols mégariens. D'une manière, disons, la chronologie archéologique la plus sûre, la plus documentée, c'est les fouilles de l'Agora d'Athènes, où là, on sait maintenant qu'ils apparaissent très exactement vers 220 avant Jésus-Christ. Donc, quand même, un siècle après Alexandre. Ce sont des fouilles menées et publiées par Suzanne Rotroff, une très éminente archéologue américaine, qui a fouillé l'Agora d'Athènes. Alors, est-ce que c'est les premiers ? On en discute. Il y a eu d'autres centres de production, en Béotie, en Macédoine, à Pella, hein, la capitale d'Alexandre. Était-ce avant ? Était-ce au même moment ? On n'est pas d'accord là-dessus. On suppose que ce type de vase imite des modèles métalliques. Modèles métalliques dans lesquels les nôtres vont retomber. Mais ça reste à prouver. Ces modèles métalliques, semble pas vraiment qu'on les ait. En tout cas, une chose est sûre. Les bols mégariens, et c'est là qu'on va se rapprocher de notre répertoire, les bols mégariens, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, donc assez quelques décennies après leur invention, vont se retrouver exportés et imités partout où les Grecs sont allés, et notamment à l'Est. Alors, on en est sûr parce que ça s'exportait au compte-gouttes, mais ça s'exportait quand même. On a quelques morceaux à Ahiranoum, en Afghanistan. On en a à Taxila, donc au nord-ouest du Pakistan. Et à Samarcande, où je fouille, on ne les a pas, mais on a des imitations locales grossières. De même qu'on a des imitations locales à Ahiranoum et à Taxila. Alors, il y a tout de même, au-delà du constat de similitude, il y a quand même un très gros problème pour la genèse de nos bols bactriens, c'est qu'il y a un hiatus chronologique. Les bols mégariens, ça ne va pas au-delà du 1er siècle après Jésus-Christ. Et nos bols à nous, je ne pense pas que ça puisse commencer avant le 4e. Donc ça fait quand même 3-4 siècles à remplir. Qu'est-ce qu'il y a eu au milieu ? Eh bien, on ne sait pas. Alors, c'est sûr aussi que les bols mégariens ont continué, sous certes des formes dérivées des bols mégariens, ont continué une carrière en Occident. Mais ils étaient moins prestigieux, ils s'exportaient beaucoup moins. Et en tout cas, on est après le départ des Grecs d'Asie centrale. C'est ce qu'on appelle la céramique arétine, d'après la ville d'Arezzo, en Italie. Alors ici, le principe est un peu le même, hein, avec le décor qui court ici, la scène mythologique, les arbres conventionnels. Bon, ici, il y a un pied. La céramique arétine, elle commence à peu près à l'époque d'Auguste, elle continue. Et puis, chez nous, la céramique dite sigillée. Alors, si vous allez dans n'importe quel musée gallo-romain en France, vous verrez de la céramique sigillée. Il y en a partout. Et les ateliers étaient. Il y en avait des ateliers en Gaule, du côté de l'Auvergne plutôt, la Grovesanque, le Zou. Ça dure jusqu'au 2e, 3e siècle. Et vous voyez, c'est vraiment très proche de ce que nous avons, mais malgré tout, ce qui ressemble le plus aux vieux bols mégariens, c'est nos bols dits bactriens. Alors, sur les bols bactriens, par ailleurs, on identifie l'influence d'autres types de vases métalliques, romains, importés. Alors, on les identifie plutôt dans le répertoire et également dans certains détails techniques que je vais être amené à mentionner, notamment la présence de ces petits médaillons qui, sur les vases romains, se retrouvent en incrustation, disons, à partir du IIe siècle. Donc, c'est très compliqué. C'est en pleine discussion. Voilà, là, je vous ai donné les jalons qu'on peut avoir maintenant. Donc, les caractères communs de ces bols, j'ai déjà expliqué donc, du point de vue morphologique. Alors, voilà, il y a un motif décoratif en haut, hein, le remplissage, le médaillon central en bas, très important. Il n'y a pas de pied, mais il y a toujours un médaillon central. Et assez souvent, il contient un motif qui est essentiel. Alors, ça peut être le portrait du propriétaire qu'on a ici. Ça peut être un motif clé. Voilà, ainsi un dialogue dont je vais être amené à parler parce que c'est le plus sensationnel de tous, c'est Édipe Roy, qu'on vient d'identifier de la scène. Ici, le propriétaire, Eftalite, on va en parler aussi. Bon, parfois un motif de poisson, mais il se trouve que quand il y a un motif de poisson, ça a un rapport avec les scènes qui sont autour. Alors, ces objets ont accueilli, sont absolument, chacun est original. J'en connais pas deux qui soient copiés l'un sur l'autre. Et ils ont accueilli un répertoire extrêmement varié qu'on peut diviser en plusieurs catégories. Alors, la représentation des élites aristocratiques dans leur diversité, leur spécificité ethnique. Alors, notamment le type physique eftalite, tout de suite reconnaissable, qui est présent, mais pas hégémonique. Il n'y a pas que. Et en gros, ça a l'air de s'arrêter avant la conquête turque, vers 560. Il y a peut-être un cas où un Turc est représenté. Bon. Alors, deuxième répertoire extrêmement important, et là, on est dans le prolongement de choses sur lesquelles je me suis beaucoup arrêté dans mes premiers cours, c'est le répertoire dionysiaque. Évidemment, un répertoire dionysiaque, dans des vases où on est censé boire du vin, c'est logique. Là, il y a une continuité depuis l'époque grecque. Alors, des allusions aux conquêtes en Inde. Alors, il se trouve que ces nouvelles dynasties surgies de la steppe ont mené des conquêtes en Inde. Et il y a, dans certains cas, visiblement, c'est commémoré sur ces vases. Et alors, en plus, bien, les conquêtes en Inde, elles ont un rapport, évidemment, avec ces élites aristocratiques, mais elles ont aussi un rapport avec le répertoire dionysiaque, parce que le premier conquérant de l'Inde, c'est Dionysos. Ce qu'Alexandre savait et ce dont il jouait dans sa propagande. Et enfin, le plus excitant de toute l'affaire, c'est un répertoire illustrant la littérature grecque classique. Et la grande nouveauté des toutes dernières recherches, c'est qu'on est en train d'abandonner l'idée d'un répertoire, disons, pot-pourri, des morceaux d'œuvres recombinés, artificiels. Il y a des cas comme ça, des morceaux recombinés un peu artificiellement, sans qu'on comprenne très très bien le rapport qu'ils entretiennent. Eh bien non, dans plusieurs cas, on est amené à penser que c'est à chaque fois l'illustration d'une œuvre particulière. Alors le répertoire, c'est les grands. On a Homère, on a Sophocle, avec Œdipe Roy, on a Euripide, ça on le savait depuis longtemps, et on a le roman d'Alexandre. Et on a une narrativité par épisode. Ça se présente comme des petites scénettes séparées les unes des autres, mais qui forment une succession, et avec une présentation assez elliptique. Le spectateur est censé comprendre de quoi il s'agit. C'était pas toujours très évident, puisqu'il a fallu parfois 150 ans à la science moderne pour arriver à comprendre ce qu'il y avait sur certains de ces bols. Les savants modernes n'avaient pas, contrairement aux propriétaires d'origine nomade de ces bols, l'excuse de n'avoir pas suivi d'études en littérature grecque. Mais effectivement, on en arrive à ça. Alors, très curieusement aussi, mais il faut le signaler, ce répertoire ne comporte jamais rien qui vient de l'épopée iranienne qui était alors en formation. On l'a cru, dans certains cas. Et, bon, alors, on va dire, certaines scènes du répertoire classique sans doute pouvaient éveiller des échos un peu arrivants. On essaie de... Oui, dans certains cas, on peut faire des hypothèses, mais ça n'est pas flagrant. Or, cette épopée iranienne, qui va prendre sa forme finale dans le Livre des Rois de Ferdowsi, à cette époque, elle est en formation. Elle est en formation en Iran et elle est en formation en Asie centrale. Et environ deux siècles après la production de ces derniers bols, on va la voir dans la peinture sogdienne. On a des épisodes avec Rostam, on a des épisodes avec les rois iraniens du passé. On les a jamais sur nos bols. Alors, j'en viens maintenant... Oui, j'ai le temps d'en venir à ce point. Le premier thème, les élites aristocratiques mettant en scène leur diversité ethnique. Alors, il faut tout de suite dire que ce qu'on n'a pas, c'est le roi tout seul. Même dans les scènes de chasse, la chasse est toujours collective. Elle permet de mettre en scène l'entente entre des aristocrates de diverses origines. C'est jamais l'exaltation de l'exploit du roi des rois tout seul, comme on a dans l'Iran sassanide. Il n'y a pas un plat sassanide, pour autant que je me souvienne, non, il n'y en a pas un, qui montre un roi chassant avec d'autres. Le roi est toujours tout seul. Ce n'est pas le cas ici, jamais. Et ce qu'on a non plus jamais, c'est des images de divinité ou des images de culte. Ou plutôt, on en a, mais insérées dans des histoires grecques. Jamais on a les divinités qu'adoraient les populations d'Asie centrale. Oui, enfin, il y en a une, mais en fait, elle a dans le plat, dans le bol qui représente Édipe Roy, une déesse grecque, Déméter, a été représentée sous les traits d'une déesse locale. Mais c'est vraiment le seul cas. Alors, mise en scène de la diversité ethnique de ces aristocrates, un très bel exemple, le plus bel exemple, c'est ce qu'on appelle le bol du Swat, parce qu'il a été trouvé il y a fort longtemps dans le Swat, région donc au nord-ouest du Pakistan, qu'on appelait autrefois Ludhiana, et il est au British Museum, et vous voyez donc le médaillon central, l'horreur du vide, il n'y a pas un centimètre carré de libre, et quatre chasseurs, tous différents, qui chassent le sanglier, le mouflon et le tigre. Oui, en fait... Enfin, c'est curieux, oui, parce que c'est des... Celui-là a effectivement une crinière, mais il n'a pas la robe d'un lion. Il a les rayures d'un tigre. C'est quelque chose qu'on voit parfois en Asie centrale. Ils avaient des modèles où on voyait des lions, mais comme ce qu'ils connaissaient surtout, c'était les tigres, Ils ont mis des tigres habillés en lion. Donc vous avez ça, par exemple, au Réguistan, à Samarcande, sur la place du Réguistan. la mosquée Sherdor, qui veut dire celle qui comporte l'image d'un tigre. Vous avez un magnifique lion. Astrologiquement, c'est un lion, puisqu'il est lié au lever du soleil. Et ce magnifique lion, il a des rayures de tigre. Parce que c'est, tout, c'est ça qu'il connaissait. Bon. Alors, ce plat trouvé dans le qui vient, dont on dit qu'il vient du Swat, on le date vers assez haut dans la série, vers 460-470, et il a bien pu être produit dans la région où il a été acquis, parce que on va voir tout de suite que deux des personnages qui sont associés à la chasse sont des souverains huns kidarites qui terminent en fait à cette époque leur carrière politique justement dans ces régions. La dernière ambassade des Kidarites envoyée en Chine est vers, je crois, en 477. Donc, ça irait bien. Et cette ambassade, ces derniers Kidarites étaient dans le Swat. Donc, ça pourrait effectivement bien être dans le champ du cygne de l'époque Kidarite et l'arrivée des Eftalites dans cette région indienne. Alors, voilà les différents chasseurs. Alors, chasseur numéro... je vais commencer par le chasseur numéro 4, qui donne la clé. Il est le seul à ne pas avoir de... Enfin, non, il y en a un autre qui n'a pas de... Il n'a pas de diadème, il n'a pas de ruban, il n'a pas de couronne, il est tête nue. Et il se trouve que c'est certainement lui le propriétaire du plat, parce que on l'a sur le médaillon, c'est lui, avec ses cheveux bouclés et sa tête nue. Alors le médaillon le montre surmontant un couple de feuilles ou d'ailes, ça dépend des cas. Qui est un emprunt à l'art sassanide et qui signifie... ça peut montrer que le personnage est mort et qu'il est au ciel. Ça peut aussi montrer, mettre en valeur, une façon d'exalter quelqu'un. Voilà, donc ce serait lui le commanditaire. Il se trouve qu'on a... c'est probablement un Indien... Un local. Malheureusement, l'image est minuscule, mais en fait, on a ici un sceau qui représente un visage très semblable avec une inscription indienne autour. Bon, je pourrais trouver d'autres indices, mais il n'est pas rattachable à une dynastie connue. C'est le grand seigneur local, peut-être au Swat, qui a voulu montrer qu'il avait des relations. Et qui chassait avec du beau monde. Bien. Les chasseurs numéro 1 et numéro 2, alors là, c'est clair, ce sont des princes kidarites, parce qu'on retrouve, ils portent des couronnes inspirées, dérivées de couronnes sassanides contemporaines, et on a ça sur les dernières monnaies kidarites. Celui-là, vous voyez, il a une couronne à cordes, comme on en a commenté la dernière fois à propos du roi Shapur II. Voilà des monnaies kidarites tardives où on a ça, couronne à cornes. Et celui-là, il a une couronne avec un motif simplifié, avec une demi-lune. Celui-là, d'ailleurs, a aussi une demi-lune et un petit soleil. Celui-là a une demi-lune et des ailes très simplifiées. Voilà une monnaie du milieu du 5e siècle qui typiquement est sans doute le modèle de ce type de couronne. Donc, deux seigneurs kidarites. Donc voilà, on sait qu'ils sont dans le coin dans ces années 460-470. Et voilà ici le dernier ici. Alors, il n'a pas de couronne non plus, mais il n'a pas le même type physique que les autres, et vous voyez tout de suite. Il a le crâne en pain de sucre. c'est un Nephtalite. C'est un Nephtalite. C'est les nouveaux venus à ce moment-là. Ils arrivent au pouvoir vers 460. Ils émergent en Bactriane et très très vite, on les voit apparaître. On les voit apparaître au Gandhara. Alors, il y a quelques discussions. Est-ce qu'il faut vraiment à ce moment-là les appeler Eftalites ? Il y en a qui les appellent plutôt Alhon parce que c'est le mot qui figure sur les monnaies. Bon, j'entre pas là-dedans. C'est la même nébuleuse. Très proche de celui-là. Alors, les Eftalites nous ont rendu un très grand service pour la chronologie artistique. C'est que la volonté qu'ils ont eue d'exhiber leur laideur offre un très précieux critère chronologique quand cette laideur s'exprime sur des œuvres. Parce que là, du coup, on dit « Oui, bon, bah, force, il n'y a qu'un Eftalite pour avoir cette tête-là. » Bien. Et c'était pas... Alors on peut dire les artistes se sont moqués d'eux, ils les ont caricaturés, ils sont maladroits, ils ont... Ben non, 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 c'est une volonté qu'ils ont eue. Alors là, voilà... voilà la galerie des horreurs. Alors, voilà, les premiers, hein, celui-là, on lui a mis des rubans qui sont censés descendre du diadème, mais il ne porte pas de diadème, on lui a quand même accroché des rubans pour montrer qu'il était un roi. Bon. Alors là, celui-là, c'est le pire de tous, là, Djavuhra. Il a vraiment une tête extrêmement patibulaire. Enfin, c'est totalement irréductible aux critères de beauté à la fois classiques et indiens. Je vais continuer la semaine prochaine sur cette question des portraits Eftalites, mais pour l'anecdote, quelle tête avait Attila, qui était un. On a des descriptions, mais pas précises, on dit seulement qu'il est très laid. On n'a aucun portrait, rien. Alors, à la Renaissance, on a voulu représenter Attila. Ce sont des monnaies de la ville d'Aquilée qui avaient, pour célébrer, je crois, le fait qu'elle avait résisté à l'invasion d'Attila. On a mis Attila. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire Attila ? On a pris un double modèle. On a pris un satyre. Alors, on a tellement pris un satyre qu'on lui a laissé les cornes. Mais alors, en même temps, satyre, c'est aussi Satan. Or, évidemment, tout le monde sait qu'Attila, c'était le fléau de Dieu. Donc, voilà le répertoire dans lequel on est allé puiser. Bien. Je pense qu'en fait... J'ai quelques raisons de penser qu'Attila devait plutôt ressembler à ça. Parce qu'il était probablement... Il est contemporain des Eftalites, qui sont aussi des Huns. Il n'est pas du tout impossible qu'il leur ait été apparenté. J'ai spéculé sur les origines d'Attila, éventuellement du groupe familial dont il fait partie, parce que... L'onomastique de son entourage est très varié. Il y a surtout des noms iraniens de la steppe. Il y a quand même un petit stock de noms de type turc, quelques noms, des noms germaniques aussi. Alors voilà ce qu'on peut éventuellement supposer pour les migrations, la grande migration des Huns, disons, qui commencerait au milieu du IVe siècle. Ils sortiraient des régions de l'Altaï, ici. Un rameau dérivé probablement des Xiongnu, c'est le même mot que Hun, qui étaient les adversaires des Chinois depuis la haute antiquité. Ils partent, certains, ça c'est une migration parallèle avec une autre culture, ils partent, on les voit, il y a déjà des contingents Hun dans l'armée sassanide ici en 359. Alors, ce même siège d'Amida où Amiens Marcellin a vu le roi Shapur II avec ses cornes. On sait qu'ils franchissent l'Inde aux couches. Ils arrivent en Inde du Nord-Ouest, au siècle suivant, quoi, au 5e siècle. On peut supposer qu'un rameau s'est détaché pendant la migration, ou est parti peut-être un peu plus tard. Ce seraient les Huns de l'Ouest, les nôtres. Et on a un indice. Attila, on sait où il a reçu son nom, on sait où il est né. Parce que son nom vient du fleuve Étil, qui est le vieux nom turc de la Volga. Donc Attila, il naît ici, vers 390, probablement, on n'a pas la preuve, mais on est tenté de le supposer. Il est né au moment où son peuple franchissait la Volga dans la route qui le menait de l'Asie centrale à l'ouest. Donc, d'où mon idée que il avait, voilà, il avait un, il ressemblait pas à ça. Il avait plutôt un air de famille avec cela. Bien, j'ai terminé pour aujourd'hui. Merci.